Situation chaotique à Mayotte. L'archipel de l'océan Indien a été ravagé par le cyclone Chido. Les dégâts matériels sont considérables, mais personne ne se risque à donner un premier bilan humain. Sonia Backès, la présidente de l'Assemblée de la Province Sud, était l'invitée du dernier numéro de l'année de Transparence vendredi. Extrait à suivre dans ce journal. Des animations autour de Noël à Nouméa. Les artisans vous attendent chaque jour dès 16h30, place des Cocotiers. Ne pas manquer non plus les animations pour les enfants à 18h, c'est au kiosque à musique. Le sport et la natation, Maxime Grousset, vice-champion du monde sur 100 mètres papillon à Budapest. Le Calédonien n'a rien pu faire face au Suisse Ponti qui a battu le record du monde. Le football est la suite de la 15e journée du championnat de France de Ligue 1. Marseille et Monaco coincent. Marseille a fait match nul un partout face à Lille. Monaco n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 à Reims. Et puis en Calédonie, le basket 3 contre 3 termine son week-end sur le Quai Ferry à Nouméa. Une centaine de pratiquants sont en lice pour une opération qui vise à promouvoir la discipline. Et soyez les bienvenus dans ce journal, l'actualité dans les Outre-mer qui fait la une ce midi. Direction l'océan Indien, où le cyclone Chido a donc balayé ces dernières heures l'archipel de Mayotte. Les dégâts sont considérables. Mayotte n'avait pas été touchée par un cyclone d'une telle violence depuis 1934. Les services de l'État se sont immédiatement mobilisés pour commencer à organiser les secours. Le nouveau Premier ministre François Bayrou a présidé ce matin une première réunion d'une cellule de crise interministérielle qui va se réunir désormais deux fois par jour. Présent également le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau qui s'est exprimé à l'issue de cette première réunion.
On a un aéroport dont la tour est détruite. Heureusement en revanche, la piste est praticable pour acheminer par exemple l'eau, la nourriture, etc. Pour ce qui concerne l'hôpital, l'hôpital a été endommagé et des services importants, cruciaux de l'hôpital, réanimation, etc. ne pouvaient plus fonctionner. Au moment où je vous parle, a priori l'électricité revenu, comme dans la capitale Mamoudzou. Jusqu'à mercredi, il va y avoir 5 vagues de renforts pour la sécurité civile. Nous aurons 210 personnels médicaux qui seront envoyés dans un premier temps.
Et à l'issue de cette réunion, Bruno Retailleau s'est refusé à évoquer un premier bilan humain, même provisoire. Mais le ministre redoute que ce bilan soit extrêmement lourd. Invité d'Europe 1 ce matin, le sénateur de Mayotte, Saïd Omar Wali, a indiqué que 11 personnes au moins auraient trouvé la mort, mais sans pouvoir le confirmer officiellement. La situation à Mayotte est donc chaotique après le passage du cyclone Chido et l'organisation des secours n'est pas simple. Il s'agit en fait d'un véritable défi logistique. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Si le cyclone Chido s'éloigne désormais de Mayotte, les dégâts causés sont très importants et la situation météo, elle aussi, est toujours chaotique. La mer déchaînée rend la navigation périlleuse. Quant à l'aéroport, il est lui aussi touché, dont la tour de contrôle, ce qui rend les atterrissages particulièrement compliqués. Vous entendiez Bruno Retailleau l'évoquer, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, qui demande la mobilisation maximale des forces de l'ordre. 1600 gendarmes et policiers sont actuellement déployés à Mayotte, ainsi que plus de 70 sapeurs-sauveteurs qui ont débuté leur première mission de secours dès la fin de la matinée. Du personnel actuellement en reconnaissance pour déterminer s'il y a eu des morts, des blessés graves, mais aussi pour vérifier l'accessibilité de certaines zones. La tâche s'annonce immense. Il faut ouvrir des voies, déblayer des routes. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit le vent balayer l'archipel et tout emporter ce matin. Des arbres, des poteaux électriques et d'innombrables toitures. À Mamoudzou, la capitale de Mayotte, le bidonville de Kaweni, construit à flanc de colline, est un champ de ruines et la situation est tout aussi critique dans le nord de l'île principale, Grande Terre, et dans les communes isolées. Un hôpital de campagne doit être acheminé et mis sur pied dans les prochains jours. Ce soir, ce sont 140 militaires de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers qui doivent partir pour Mayotte.
Et j'ajoute que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, se rendra à Mayotte en début de semaine, vraisemblablement mardi pour nous. Le point sur la situation financière et budgétaire de la Nouvelle-Calédonie et de la province Sud et l'annonce de la reprise des discussions sur l'avenir au menu du magazine Transparence vendredi midi. C'est Sonia Backès, la présidente de l'Assemblée de la province Sud, qui était en effet l'invitée d'Elisabeth Noir-Michel Juneski.
Elle a d'abord été interrogée sur la situation financière des collectivités calédoniennes avec l'adoption de la DM6 qui intègre 27 milliards de francs dans le budget de la Nouvelle-Calédonie et avec le rejet de la loi de finances 2020. 2025 causée par la chute du gouvernement Barnier. Les problèmes sont en deux parties, a-t-elle expliqué.
Il y a la partie fin de 2024, donc c'est ce qu'on a voté avec la DM6 au Congrès. Si on n'avait pas l'argent de cette DM6, c'était concrètement la cessation de paiement de la quasi-totalité des collectivités de Nouvelle-Calédonie au 31 décembre. Donc il y a cette question de 2024, de comment on fait pour payer tout ce qu'on doit payer sur cette fin d'année. Et puis, c'est vrai que ça continue jusqu'au mois de janvier parce que ça nous sert au mois de janvier. Et puis, c'est fondamental, il y a 2025. Et 2025, ce qui était prévu, c'était au projet de loi de finances nationale qui est tombé avec le gouvernement de Barnier. Et donc, on se retrouve là avec strictement aucune visibilité. Pour la province sud, mais pour la Nouvelle-Calédonie, pour toutes les communes. On sait qu'on va pouvoir payer janvier, peut-être tirer un peu avec de la trésorerie sur février, mais en fait, après, c'est fini. Et donc, on attend un nouveau projet de loi de finances qui arrivera avec un nouveau Premier ministre. Le Président de la République l'a annoncé pour les prochaines heures. Donc, on attend ça avec une grande impatience parce que la survie de la Nouvelle-Calédonie passe par là.
Il reste notamment le problème de l'arrêt du chômage partiel au 31 décembre, ajoute Sonia Baquès, qui souligne que les collectivités calédoniennes sont dans une incertitude permanente. Le budget primitif 2025 de la province sud a été adopté avec l'inscription, par anticipation, de l'aide de l'État. Dans ce contexte, l'adoption de la DM6 constitue une bouffée d'oxygène, mais elle aurait pu être rejetée au vu du débat très vif qui s'est déroulé dans l'hémicycle du Congrès.
Il y avait une partie du Congrès qui considérait qu'on pouvait tordre le bras à l'État et leur dire « bah non, en fait, on va pas voter votre truc tel quel. Les 27 milliards, on prend le risque que vous les versiez pas parce que nous, on est plus fort que vous. » Mais vous savez quoi, ça marche pas comme ça. En l'absence de pouvoir politique capable de dire à Bercy « arrêtez avec la Nouvelle-Calédonie a besoin de cette aide et on n'a pas de gouvernement », Bercy fait ce qu'il veut. Donc Bercy était en capacité de ne pas verser ces 27 milliards. Et je vous l'ai dit au début de cet entretien, si ces 27 milliards n'étaient pas versés, c'était la cessation de paiement au 31 décembre de sans doute une trentaine de collectivités sur les 37 que compte la Nouvelle-Calédonie.
Et la présidente de la province sud évoque le précédent du pacte nickel comme bras de fer perdu par la Calédonie. Sonia Baquès a également été interrogée sur l'annonce d'un calendrier de reprise des discussions sur l'avenir. À l'issue d'une réunion avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, elle reste sceptique sur la réalité de ce calendrier.
Je sais pas, parce qu'on a certains membres de l'UC qui nous disent « Non, vous inquiétez pas, on continue ». Moi, je considère simplement que le chemin d'un accord, c'est un chemin sérieux, compliqué, qui existe. Il y a des solutions pour se mettre d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ces solutions techniques, elles existent. Politiques, elles existent. Pour ça, il faut que tout le monde ait envie de le faire. Je crois dans la sincérité et la volonté des groupes qui sont autour de la table de trouver une solution. Je suis pas convaincue de la sincérité de l'UC. Je crois que l'UC essaye de gagner du temps pour continuer à faire partir les gens, pour continuer à faire peur et pour obtenir à la fin que les élections se tiennent avec un corps électoral gelé. Alors on peut me dire que c'est pas vrai. Je demande que ça, de croire que c'est pas vrai. Ce qui s'est passé le 13 mai me permet, je crois, d'être sceptique et de ne pas être naïve par rapport à la position de l'UC. Donc j'attends de voir. S'il y a des discussions, tant mieux. Mais il ne faut pas parler pour rien dire, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de parler avec des gens qui n'ont pas de mandat et qui se font désavouer à chaque fois qu'ils font une avancée. Ce n'est pas possible.
Le communiqué des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat parle d'une méthode de négociation qui reposera sur les deux documents issus des travaux menés jusqu'au 13 mai 2024. Il a été demandé à Sonia Baquès si elle pensait qu'il existait déjà des bases pour trouver un accord.
Oui, d'abord, on y a passé beaucoup de temps et il y a des vrais équilibres qui avaient été trouvés. Maintenant, ces équilibres, ils ont de fait bougé, sans doute, de part et d'autre. D'une part, parce que s'ils avaient été complètement validés, il n'y aurait pas eu de 13 mai. Donc ça veut dire que les uns et les autres ne les ont pas validés dans leurs instances. Donc forcément, ils n'ont à ce stade pas de valeur politique. Mais l'idée, c'est de ne pas tout recommencer. Les discussions sur le corps électoral, sur le droit à l'autodétermination, sur la relation avec la France, sur la répartition des compétences, sur la composition du Congrès, du gouvernement, sur les provinces, tout ça, on les a eus pendant des heures et des heures. Et on est arrivé à des équilibres. Évidemment, la première question qui se pose, c'est est-ce que le curseur de ces équilibres a bougé ? Et c'est ça qu'on est en train de poser dans un premier temps.
Il faudra ensuite trouver un équilibre ou organiser nos désaccords, ajoute Sonia Baquès. Ou alors c'est l'État qui tranchera. Mais elle souligne que les choses ont changé depuis le 13 mai.
Certains curseurs ont sans doute bougé. En ce qui nous concerne, il y a des choses qui faisaient partie des équilibres d'avant 13 mai pour lesquelles on n'a pas le même regard. On s'est fait agresser le 13 mai avec des actes d'une violence extrême, raciste. Et on n'a évidemment pas le même regard sur la manière de construire l'avenir. On a aujourd'hui une volonté de protéger nos populations pour ne pas que ça se reproduise, qui prend le dessus sur tout le reste. Tout ce qu'on fera en termes d'organisation de la Nouvelle-Calédonie sera fait pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Et donc forcément, ça a des conséquences sur les équilibres qui avaient été trouvés avant 13 mai.
Et pour trouver un accord qui inscrive la Calédonie dans la France tout en garantissant la paix, la présidente de la province sud estime qu'il faut bannir les référendums d'autodétermination binaire et qu'il faut rechercher une évolution dans le sens d'un fédéralisme territorial. C'est, pour elle, une organisation dans laquelle les provinces sont au cœur du système, comme l'avaient voulu Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou.
Ces deux responsables politiques se sont dit « Nos populations sont à la fois très différentes et parfois elles se ressemblent, mais en tout cas elles n'ont pas la même manière de vivre, pas le même projet de société. La démocratie qui est le cœur de notre raisonnement, c'est pas dans le système coutumier, ce n'est pas la démocratie qui l'emporte. La valeur travail, mérite, ordre, ce n'est pas la valeur fondamentale du système coutumier. Et ce n'est pas grave, je ne porte pas de jugement à ça. Mais je considère que chacun doit pouvoir s'épanouir et faire vivre ce en quoi il croit sans qu'on essaye de le rentrer dans un système auquel il ne veut pas appartenir. Et donc, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur avaient construit un modèle dans lequel, bah, finalement, chacun, là où il était majoritaire, en tout cas, pouvait mettre en place ce en quoi il croyait. Ça a été démonté par l'accord de Nouméa. Et c'est l'accord de Nouméa qui nous a explosé à la figure 25 ans après. C'est de vouloir gommer, ou en tout cas se cacher les yeux devant la réalité de nos différences, en disant, mais non, gouvernement collégial, il n'y a rien qui marche. Ça ne marche pas. On est différents, c'est comme ça. Soit on dit, on est différents, comment on organise nos différences, soit on continue à se voiler la face et à dire, mais non, mais en fait, on a tous envie d'être pareil. Non, moi, je n'ai pas envie de vivre dans le système coutumier. Il y a certains indépendantistes qui n'ont pas envie de vivre dans le système européen. Bah, dont acte, c'est pas grave, quoi. On organise les choses de manière à ce que chacun puisse être bien là où il est majoritaire.
Une interview de Sonia Baquès qui sera rediffusée ce soir juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet.
Au chapitre politique encore et en bref, au lendemain du conseil municipal du Mont-d'Or qui s'est tenu jeudi et lors duquel les élus Génération ONC ont vu l'adoption à l'unanimité de leur vœu de mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs pendant les vacances scolaires entre 22h et 6h du matin. Le parti de Nicolas Metzdorf a publié un communiqué pour que cette mesure soit étendue aux autres communes de l'agglomération. Les élus Génération de Nouméa, de Dimbéa et de Païta prévoient d'adresser une demande similaire à leurs maires respectifs. Le parti a également sollicité le haut-commissaire pour qu'il accède à cette demande. Il est midi et 13 minutes. On marque une première pause dans le journal.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Lionel Sabot.
Et la vice-ministre des Affaires étrangères du Vanuatu était en visite officielle en Calédonie. Anglititou a rencontré vendredi les responsables de plusieurs institutions. Hier, elle a participé à un moment de recueillement au monument des Shangdang, les premiers Vietnamiens arrivés sur le territoire dans le quartier asiatique, avant de rencontrer la communauté vietnamienne. C'était hier soir au foyer de Magenta. Écoutez Patrick Guillon, le président de l'amicale vietnamienne.
Ce voyage, déjà, c'est un très grand honneur pour nous. Déjà, nous avons la vice-ministre, bien sûr, qui est avec nous, mais aussi l'ambassadeur du Vietnam en France, qui n'est jamais venu en Nouvelle-Calédonie, et le consul général du Vietnam à Sydney, qui est notre lien le plus proche pour tout ce qui est administratif avec le Vietnam. Comme je disais, c'est un honneur pour nous et c'est une grande joie. Nous avons tenu à montrer à la communauté vietnamienne en Nouvelle-Calédonie, bien qu'elle soit loin du pays, bien qu'elle soit aussi loin de leur famille. On garde toujours le Vietnam dans notre cœur et ici, dans une terre du Pacifique, nous avons fait perdurer nos traditions et notre culture et nos valeurs. Comme a été dans les discours, c'est la fraternité. L'amicale vietnamienne a souhaité rappeler qu'elle est toujours ce pont entre la communauté vietnamienne de Nouvelle-Calédonie et les Vietnamiens qui sont amis de la Nouvelle-Calédonie.
Des propos recueillis hier soir par Kalinda Bouakou. La place de la Marne accueille depuis hier un marché de Noël artisanal organisé par la ville de Nouméa en partenariat avec la Chambre de métiers de l'artisanat. L'occasion de retrouver un marché de Noël artisanal 100% local qui met en valeur le savoir-faire des artisans calédoniens. Les visiteurs peuvent profiter de 25 à 30 exposants place de la Marne.
C'est Iseka. Il y a des robes, des tuniques, des hautes robes, des fleurs ou encore des couronnes.
Nicolas en couleur NC. Je parle à la main sur textile, donc je fais plein de belles choses pour la maison ou pour se faire plaisir. Des chemins de table, des pochettes, des sacs de course, des torchons, des tabliers.
C'est Christine NC, donc je fais tout ce qui est carterie, album, entièrement fait main, relié soit cousu ou en reliure en métal en fait. Je fais des cartes de Noël, des marque-pages aussi, des petits carnets albums pour mettre des photos et je fais aussi également des jolis tableaux, ainsi que des petites guirlandes de porte-photos aussi. C'est vintage, hein, puis c'est le scrapbooking, en fait, ce qu'on appelle le scrapbooking. Et ben, c'est l'idéal pour le petit cadeau de Noël, en fait.
C'est Artisphère, on représente plusieurs artisans, donc notamment Prisous NC avec de la résine, Coco Fleur avec des objets en tissu. On a aussi Alésil qui fait de la couture, Cathy Création avec de la peinture. Et donc c'est un peu comme une petite boutique partagée mobile. T'as pour tous les goûts. Ça va du simple marque-page aux bijoux, à la couronne de fleurs, à la personnalisation pour des lettres illuminées, des sacs, des galets.
Le marché de Noël artisanal, c'est tous les jours de 16h30 à 21h jusqu'au dimanche 22 décembre et de 14h à 21h le lundi 23 décembre. Rendez-vous place de la Marne. Notez également que les spectacles gratuits sont présentés à 18h tous les soirs au kiosque à musique. Le dernier marché de mamie de l'année à Farino. Les exposants étaient nombreux à proposer de quoi garnir vos tables de fête, mais aussi de bonnes idées cadeaux. Écoutez Ghislaine Arly, responsable du marché de mamie.
Tout va très bien, il y a du monde, il y a de l'ambiance, il y a des jeux, de l'animation, le poids du panier, et tout le monde est heureux parce que il y a beaucoup d'animation, il fait beau, il y a un petit vent qui permet de rafraîchir l'air. On ne peut pas demander mieux. Les stands sont très bien garnis avec pas mal de produits mis en valeur, avec des petits paquets cadeaux, avec il y a vraiment de quoi non seulement acheter les produits pour soi-même, mais aussi des produits à offrir. Il y a beaucoup de produits à offrir. Il y a aussi une douzaine de stands d'artisanat où on peut trouver voilà, des produits vraiment locaux et faits main. Donc voilà, tout le monde peut trouver son bonheur. Tout le monde est heureux ce matin d'être à Farino.
Dans l'actualité festive, encore la deuxième édition du Salon des Antiquités, des objets de collection et du vintage. Il se poursuit aujourd'hui à la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville de Nouméa. Il est organisé par l'association calédonienne des amateurs d'objets de collection. 25 exposants vous attendent jusqu'à 17h ce soir. Et puis, à noter également dans votre agenda du chant choral ce soir à Nouméa. La chorale Les Alizés chantera Noël sous la direction de Marie-Hélène Viplier. C'est à 18h et c'est à l'église du Vœu.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Noël également sur Radio Rythme Bleu avec notre grande opération au cœur de Noël lancée il y a maintenant 15 jours. Tous les dons que vous nous apportez seront, vous le savez, redistribués avec l'aide de la Croix-Rouge, du Secours catholique, de la Société Saint-Vincent-de-Paul et de la Table ronde française aux familles dans le besoin, et notamment celles qui ont été touchées directement par la crise insurrectionnelle. Au cœur de Noël avec Radio Rythme Bleu pour que cette année encore, Noël soit une fête pour tous. Retour à l'actualité en métropole avec le périple meurtrier d'un homme qui a fait 5 morts dans le Nord. L'auteur des faits s'est rendu à la gendarmerie et on commence à en savoir un peu plus sur les circonstances de ce drame. Maximilien Carlier pour Europe 1.
Tout a commencé en milieu d'après-midi vers 15h. La première victime est un chef d'entreprise. Il est abattu dans sa cour, devant sa famille. Le suspect aurait travaillé dans cette société, un ex-salarié en fait. L'homme âgé de 22 ans prend ensuite la direction du littoral. Il croise deux exilés, les abat à l'arme automatique, 9 coups de feu tirés. Puis quelques centaines de mètres plus loin, ce sont deux agents de sécurité portuaire qui sont tués à l'Aune-Plage. Donc, les secours sont alertés. Il y a toujours les pompiers présents sur place, un important dispositif de sécurité. 5 victimes victimes au total. Une enquête judiciaire a été ouverte.
30. Maximilien Carlier pour Europe 1. Le pape François est attendu, vous le savez, en Corse dans les toutes prochaines heures. Le Saint-Père se rendra à Ajaccio où il sera accueilli par des dizaines de milliers de personnes sur l'île de Beauté. Et à la veille de l'arrivée du souverain pontife, l'heure est aux dernières répétitions. Frédéric Michel.
C'est bon, on garde cette version-là, on est d'accord.
Ah bah oui, c'est beau en plus.
C'est très très beau.
Autour de l'hôtel blanc en forme de bateau installé au centre de la Seine, des techniciens s'activent et sur le côté, le chœur répète.
C'est un chœur qui a été créé avec tous les chœurs de toute la Corse en fait.
Jean-Luc Blénaud, chef du chœur de Sartène.
C'est un mélange de groupes de polyphonie, de confréries et même des chœurs paroissiaux.
En retrait, silencieusement, un ténor prépare sa voix. Le garçon a tout juste 16 ans.
C'est un grand honneur qu'on nous fasse venir pour chanter. Et c'est déjà un grand événement pour Ajaccio, pour la Corse. Là, les répétitions, surtout cette semaine, on en a eu pas mal. Mais là, la grande répétition avant le jour J.
À 9h45 précise, demain matin, le pape François entrera dans la ville qui est déjà ce soir en fête. Devant la préfecture, la formation musicale de la gendarmerie mobile joue pour les habitants d'Ajaccio et les premiers pèlerins rassemblés.
Ça commence.
On découvre au fur et à mesure. On ne savait pas qu'il y avait la musique là, qui jouait. On va voir la cathédrale et on fait le tour.
Dans la vieille ville, des scouts en uniforme déambulent sur les trottoirs mouillés par la pluie.
C'est important de montrer au pape que nous sommes là pour l'accueillir.
Le pape, c'est quelqu'un de très important dans la chrétienté.
Demain, c'est certain, le soleil sera de retour dans le ciel d'Ajaccio et dans les cœurs.
Frédéric Michel, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Corse. En bref, Miss Martinique est devenue Miss France 2025. Le concours se déroulait ce dimanche en métropole. Angélique Agarny et Philopon a donc été désignée ambassadrice de beauté nationale. Elle est âgée de 34 ans car pour la première fois cette année, aucune limite d'âge n'avait été fixée par le comité Miss France, alors qu'avant il ne fallait pas dépasser 24 ans. Cette hôtesse de l'air de profession entre donc en quelque sorte dans l'histoire du concours de beauté. On rappelle qu'il n'y avait pas de représentante de la Calédonie cette année puisque le concours territorial n'a pas pu être organisé en raison de la crise insurrectionnelle. Quelques mots de l'actualité à l'étranger. En bref, avec des scènes de liesse en Corée du Sud, des milliers de personnes sont descendues dans les rues des grandes villes pour saluer la décision du Parlement sud-coréen qui a voté en faveur de la destitution du président. Il avait tenté d'imposer la loi martiale et de faire museler le Parlement par l'armée. C'était au début du mois. Et puis la mort d'une figure de la mode espagnole, Isaac Andic, le fondateur de la marque de vêtements Mango, a trouvé la mort dans un accident en montagne. Il serait tombé dans un ravin dans la région de Barcelone. Isaac Andic était l'un des hommes les plus riches d'Espagne, avec une fortune estimée à quelque 4,5 milliards d'euros, soit un peu plus de 536 milliards de francs pacifiques. Il est midi 23, une dernière pause. Dans un instant, tout le sport.
C'est la fin d'année et Mobile Nouvelle-Calédonie vous réserve une surprise exceptionnelle. Jusqu'au 15 décembre, Mobile vous offre l'opportunité de remporter un iPhone 16 chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, 4 iPhone 16 à gagner avec un tirage au sort tous les lundis. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Mobile Nouvelle-Calédonie. Abonnez-vous à notre page et jouez dès maintenant. Ne manquez pas votre chance. Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Mobile Energy lives here.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite avec l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot, mais on salue tout d'abord notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et Et on commence avec de la natation et Maxime Grousset qui monte encore une fois sur un podium mondial.
Le Calédonien qui a terminé avec l'argent en finale du 100 mètres papillon lors des mondiaux en petit bassin, donc à Budapest. Il a seulement été devancé par le Suisse Noé Ponti, trop rapide, qui bat à cette occasion le record du monde sur cette distance, 47 secondes 71 centièmes, pour améliorer la marque que détenait jusqu'à présent l'Américain Caleb Dressel. Pour Maxime Grousset, 48 secondes 59, c'est un record de France et surtout un nouveau podium mondial, donc à 25 ans, alors qu'il avoue être parti sans stratégie.
J'avais pas de stratégie, j'avais des petits points à améliorer, mes virages. J'en ai loupé un, pas trois. Donc voilà, forcément j'ai fait mieux, mais j'avais surtout plus d'engagement et j'avais envie d'aller le plus vite possible.
Et Maxime Grousset qui a donc, sur ses 7 dernières compétitions internationales disputées, terminé à chaque fois avec un podium au minimum. Il s'est aussi qualifié pour la finale du 50 mètres nage libre en réalisant le troisième temps des séries. Il est passé symboliquement sous la barre des 20 secondes.
Allez, on passe au football, Mickaël, avec la 15e journée de Ligue 1 et Marseille qui cale face à Lille.
L'OM rate l'occasion de poursuivre sur sa lancée. Dans ce choc du jour, les Marseillais ont concédé le nul contre les Lillois. Un but partout, un but du LOSC signé Diakité à la 87e minute de jeu. Marseille est deuxième, Lille quatrième. Le coup du sort voudra que le premier poursuivant des Marseillais au classement, l'AS Monaco, n'a pu faire mieux qu'un nul à Reims, 0-0. L'OM et Monaco restent donc à égalité parfaite au classement, avantage aux Marseillais grâce à un meilleur goal average. Encore un nul aujourd'hui, Auxerre et Lens qui se sont quittés sur un score de parité, 2-2. Suite des rencontres ce soir et demain matin avec notamment Brest-Nantes ou encore PSG-Olympique Lyonnais.
Du foot encore avec un coup d'œil sur les principaux résultats sur la scène européenne cette fois-ci.
En Angleterre, pas de victoire pour Arsenal contre Everton, 0-0. Dans le même temps, les Reds de Liverpool, leaders, ont aussi fait match nul contre Fulham, 2-2. Il y aura demain un derby mancunien, Manchester City contre Manchester United. En Espagne, le Real Madrid fait lui aussi match nul. Les Madrilènes ont quitté la pelouse du Rayo Vallecano sur un score de 3-3. Le Barça retrouvera demain Leganés et l'Atlético Madrid affrontera Retafe. La Bundesliga allemande et la défaite du leader le Bayern Munich à Mayence, 2-1. Enfin, le calcio italien, ce succès de Naples à Udinese, 3-1. La Juve fait match nul, décidément, hein, contre Venise, la lanterne rouge du championnat italien. 2-2 entre les deux formations.
Et du rugby également et fortune diverse pour les clubs français qui étaient engagés aujourd'hui en Champions Cup.
L'Union Bordeaux-Bègles de Yoram Moefana qui poursuit sur son bon début de compétition. Une nouvelle victoire pour le compte de la deuxième journée des phases de poule. L'UBB a battu les Irlandais de l'Ulster, 40-19. Ils sont leaders de la poule A. En revanche, l'air d'Irlande n'a pas réussi à Clermont, dominer sur le terrain du Leinster 15-7. Une défaite qui renvoie les Auvergnats à la troisième place de la poule B. Et dans la même poule, le Stade Rochelais a surclassé les Anglais de Bristol 35-7 pour prendre les commandes de ce groupe. Dès demain, le Stade Toulousain sera sur le terrain des Anglais d'Exeter, tandis que le Stade Français affrontera les Saracens et le RC Toulon fera face aux Écossais de Glasgow.
C'est la course à la voile que les marins de la région ne manqueraient pour rien au monde. La Sydney Hobart, bien sûr, qui partira le 26 décembre de la capitale du New South Wales pour allier celle de la Tasmanie dans une mer et des conditions météo toujours compliquées. Et cette année encore, il y aura un équipage calédonien, celui de Pulpito, skippé par David Tréguier, qui va participer à sa troisième Sydney Hobart consécutive.
C'était pas une évidence, mais c'est une sorte de drogue. J'ai eu la chance de la faire en 2022 avec mon bateau, en 2023 avec le bateau des copains de High Candy, et j'avais l'envie d'y retourner cette année avec mon bateau et un équipage différent.
Qu'est-ce qui change d'une édition de la Hobart à l'autre? C'est la préparation, c'est l'équipage, c'est l'envie aussi peut-être? Il y a peut-être des motivations différentes?
L'expérience, la voile c'est un sport d'expérience, donc on évolue énormément là-dessus. Et puis la météo, en fait, on a beau faire toujours le même parcours, c'est jamais la même course, la météo est toujours différente. Les deux dernières courses, on a eu à chaque fois 40 nœuds et plus. Et même là, sur le convoyage, donc de partir de Nouméa pour arriver jusqu'à Sydney, on a prévu la semaine prochaine d'avoir un front, passage de front à 35 nœuds. Donc qui devrait nous mettre un peu dans l'ambiance des mers du Sud.
Et sur les 8 membres d'équipage, 4 naviguent toute l'année sur Pulpito. Les 4 autres viennent d'autres bateaux calédoniens habitués des régates dans le lagon. Et même si la Sydney Hobart est d'abord une aventure, cela n'empêche pas d'avoir des objectifs.
Il y a une compétition un peu en interne. On est 6 bateaux identiques, 6 Sydney 38. Donc le but est de finir au mieux possible dans ces 6 bateaux.
Cette année, il n'y a pas eu la Groupama Race, que tout le monde attendait, qui a été annulée pour les raisons que l'on sait. Ce type de compétition, comme la Sydney Hobart, pour les marins, c'est vraiment important dans la région de pouvoir participer à ce genre de régate.
Bah, c'est la compétition phare du monde du bateau en Pacifique. Ça draine entre 100 et 120 bateaux tous les ans à la même période. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais.
Et est-ce que c'est aussi important de connaître justement la course, de connaître les à côté, de savoir comment ça se passe, de l'avoir déjà faite? Est-ce que ça vous donne une certaine tranquillité dans la préparation?
Ma course aujourd'hui est complètement différente de celle d'il y a 2 ans. C'est sûr que je pars avec nettement plus de sérénité et d'expérience sur comment appréhender les choses et la préparation.
Ouais. Et notez que Poulpito a pris la mer hier de Nouméa pour rallier Sydney. Il restera à son équipage quelques jours de repos qui seront aussi mis à profit pour peaufiner la préparation du bateau. Le départ de la Sydney Hobart, ce sera le 26 décembre. On parle basket en revenant en Calédonie, Michael Juneski, avec ce terrain installé depuis vendredi sur le Quai Ferry.
Exactement, un terrain de 3 contre 3 au grand air, dans un espace public avec vue sur mer. La Ligue a donc installé ce terrain amovible qui permet aux joueuses et aux joueurs de profiter d'un nouveau décor tout en intéressant le public à la pratique.
Je trouve ça va, c'est une bonne idée, ça change un peu.
Ça nous permet de jouer, surtout quand on n'a pas eu de championnat.
Bah, ça change des endroits habituels. Parce qu'on a l'habitude de jouer sur les mêmes terrains, vu qu'il n'y a pas beaucoup de salles et de terrains, bah ça change d'endroit, de spectateurs et de paysages.
En vrai, c'est intéressant parce qu'au moins, tu as du public déjà qui peut t'observer. C'est pas souvent qu'on a des terrains, surtout au Quai Ferry.
Je trouve que c'est une bonne initiative pour tous les jeunes et tous les licenciés pour pouvoir jouer un peu à l'extérieur.
Franchement, c'est cool. C'est sympa, on est face à la mer, au soleil, c'est cool.
Le terrain est en place depuis vendredi et jusqu'à cet après-midi 16h, une centaine de joueuses et de joueurs participent à cet événement qui est aussi la dernière date de l'année pour le basket en Calédonie.
Midi, pratiquement 32 minutes, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir à 13h pour d'autres infos. Bel après-midi sur RRB.